Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça se discute, le magazine mensuel des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Ce soir, on questionne l'engagement sur Fréquence Protestante. Vous pouvez nous suivre donc sur 100.7 FM, également sur le site internet de Fréquence Protestante, et vous pouvez réagir en live sur les réseaux sociaux au Modias Ça se discute. Et merci aux copains de la Toile Scout pour le suivi de notre émission. Et pour conduire avec moi cette émission, mes chers collègues, Alexis et Paul, bonsoir.
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 Bonne année les garçons.
Bonne année.
Pareil.
Quoi de mieux pour parler de l'engagement que de revenir de notre week-end de l'Assemblée Générale, qui s'est tenue cette année à Montpellier. Qu'on se sent plein de fougue, prêt à changer le monde après un week-end où le soleil nous a caressé le visage, où 180 personnes, foulard au vent, étaient réunies pour questionner, débattre, échanger autour de notre projet. Quoi de mieux pour parler de l'engagement que de revenir de l'AG où l'on s'est rencontré pour parler des projets à venir, des projets en cours et reparler des projets passés? Quoi de mieux pour parler de l'engagement que d'avoir passé une soirée à rire, à chanter, à danser comme dans nos souvenirs de camp? Alors oui, mes amis, chers auditeurs, engageons-nous aux éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, car s'engager on s'engage car... on s'engage quoi ça sert à quoi au final de s'engager Alors dans Larousse, l'engagement c'est l'action d'engager. Et engager c'est lier, attacher quelqu'un par une promesse, une obligation. Bon, dans le dictionnaire Hachette des synonymes, oui bon j'ai ressorti tout, mon matériel de lycée, bon. On trouve astreindre, contraindre, obliger. Ouais, bon, bah là, du coup, ça fait un peu moins rêver de s'engager. Mais alors, pourquoi on s'engage? Comment on s'engage? Qu'est-ce qu'on gagne finalement à s'engager? À s'investir bénévolement ou non, pour une cause? Pour une cause qui nous tient à cœur? Est-ce qu'on est vraiment de savoir sur quoi on s'engage vraiment? Alors, que de questions. Pour répondre à tout ça, pour comprendre un peu mieux les raisons de notre engagement, nous accueillons ce soir Agnès Blondel, bénévole de la CIMAD, Mathieu Marcussi, salarié de l'association Vidvol Solidarité Jeunesse et membre de la commission branchée les 16-19 ans de notre association. Et on reçoit également Charlène Missler, salariée de notre association depuis peu et ancienne service civique à la Fédération d'entraide protestante. Bonsoir tous les trois et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors pour commencer toutes ces questions, Agnès, tu es engagée bénévolement à la CIMAD. Et est-ce que tu peux nous présenter cette association et l'action bénévole que tu as là-bas?
Mais oui, avec plaisir. Alors en fait, moi je travaille depuis peu à la CIMAD d'Homme Asile, donc dans un centre qui s'occupe principalement de domicilier et d'accompagner les demandeurs d'asile dans leur démarche. Donc très concrètement, ça veut dire qu'on reçoit leur courrier, qu'on leur distribue, qu'on les aide dans leur démarche administrative, par exemple pour la sécurité sociale, mais aussi avec des permanences plus orientées juridiques pour toutes les démarches pour avoir le statut de réfugié en France.
D'accord. Et tu sais faire ça comment?
Alors, on apprend un peu sur le tas quand on démarre, et il y a des formations qui sont organisées régulièrement par les salariés d'Homme Asile et de la CIMAD pour qu'on puisse accompagner plus efficacement les demandeurs d'asile.
D'accord, merci. Mathieu, toi, tu t'es engagé aux EIDF depuis un petit moment, je crois, hein? Et tu travailles également dans une association de solidarité. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cette association que j'ai un peu écorchée, je crois? Et pourquoi ce choix d'autant d'engagement?
Bonsoir. Alors, effectivement, je travaille à Virevol Solidarité Jeunesse Île-de-France, une association qui fait du volontariat international et de la solidarité. C'est de la solidarité internationale par le volontariat. Et donc, on est dans un réseau mondial d'associations, d'éducation populaire, et on met en place des échanges de jeunes, des échanges de volontaires entre pays, entre différentes associations à but non lucratif, pour justement, et ces volontaires viennent nous aider, et les volontaires qu'on envoie vont aider d'autres associations dans leur mission. Et à Virevol Solidarité Jeunesse Île-de-France, on réalise un chantier d'insertion pour des jeunes d'Île-de-France en difficulté, et on mène un projet de vie collective, d'accueil de groupe, justement pour partager tout un certain nombre de valeurs qui nous sont chères.
D'accord. Donc professionnellement, t'es engagé. Et bénévolement, Le week-end et le soir, au cas où. T'es encore engagé. Pourquoi ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est l'exemple parental. Mes parents, je les ai beaucoup vus agir et tout le temps faire beaucoup de choses, tout simplement. Et je pense que je reproduis cet exemple-là en partie. Avec le fait d'être arrivé, que mes parents m'aient placé aux éclairs unionistes tout petit, voilà, j'ai grandi dans un monde associatif en partie et j'y ai découvert tous les liens qu'on peut y tisser et tout l'enrichissement qu'on peut en retirer. Et aujourd'hui, je pense que cet engagement, je pourrais le résumer en disant que je remplis mon capital bonheur en essayant de remplir celui des autres, en créant et en participant à des projets ambitieux.
Waouh, ça c'est une super bonne raison de s'engager, disons. Est-ce que ça fait peur de s'engager? Donc, parce que toi, tu parles de Mathieu, toi, tu parles de tes parents. Mais, et toi, Agnès, est-ce que le bénévolat, c'est arrivé d'un coup adulte ou
C'est venu très jeune parce que moi, j'ai été scout de France depuis toute petite. Et donc, c'est venu très progressivement avec des projets scout de France d'abord, puis des projets internationaux, partenariat scout de France, Savoir Togo. Puis avec d'autres projets par derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure.
D'accord. Donc, ça t'a pas fait peur de t'engager à la CIMAD ?
Non. Non. Vraiment pas.
Pas du tout. Super. Et toi, Mathieu, tu penses que l'engagement, ça peut faire peur ?
En partie, je pense qu'à un moment donné, dans notre gestion de notre temps, dans la gestion de notre vie, on peut à certains moments, je pense, être perdu et se dire qu'on sait plus trop où donner de la tête. Et que, en fonction des priorités qu'on se fixe, je pense que des fois, quand on vient et qu'on nous propose des missions, souvent, je pense qu'on fait un pas en arrière, on prend du recul, on se dit « Oula, quel temps ça va me prendre ? Est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre ce que je vais appeler ma vie, en continuer cet engagement ou pas ? Et quelle richesse je vais en retirer ?» Donc oui, je pense qu'on a besoin un peu de prendre du recul et que ça peut s'apparenter à de la peur.
Donc, dans l'engagement, il peut y avoir des allers-retours et le capital bonheur, des fois, on oublie que c'est ça que ça nous apporte. Ok, très bien. Mais donc ça nous apporte quelque chose de s'engager. Toi, tu t'engages gratuitement, bénévolement aux EUDF, Agnès à la CIMAD. On a autour de la table aussi Charlène, qui est salariée de notre mouvement. Donc, toi, tu t'engages, mais tu t'engages pas bénévolement, mais de façon salariale. Est-ce que... Il y a une différence ? Est-ce qu'on s'engage tout pareil, même quand on a une fiche de paye ?
Je pense que oui, il y a un engagement, c'est certain. Et je pense que quand on décide de travailler dans le milieu associatif, en fait, faut forcément que ça soit quand même en phase avec nos convictions personnelles. Donc oui, il y a un engagement, même salarial, et surtout quand on décide de travailler dans le milieu associatif.
Et le fait de vivre... quotidiennement de son engagement, est-ce que ça fait pas peur ? Parce que quand on a un petit coup de mou, comme en parlait Mathieu, on est bénévole, on dit on pourra peut-être remettre à demain, j'ai pas envie de passer ce coup de fil, j'ai pas envie d'envoyer ce mail, mais toi c'est ton travail. Alors ouais. comment on gère ce coup de mou ?
Après, je pense qu'il faut aussi se rattacher à la motivation première qu'on a derrière, et même quand on a des découragements, se rattacher à l'aspect militant qui nous fait vivre tous les jours, en fait.
Mm-hmm. Mathieu ?
Pour moi, s'engager, c'est passer un contrat, qu'il soit moral ou qu'il soit écrit, et ce contrat nous donne des droits et des devoirs, tout simplement. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est effectivement, des fois, les coups de mou, c'est aussi un devoir qu'on a, parce qu'on a signé avec nous-mêmes, on a signé avec quelqu'un, une structure, un contrat.
C'est vrai que mon dictionnaire Larousse parlait d'une promesse, d'une obligation. Donc il y a aussi cette notion de réciprocité quelque part. Et notamment, je pense que Alexis va vous en parler, va vous poser des questions là-dessus, sur justement ces contrats qu'on peut passer quand on a envie de s'engager dans la société civile.
Alors, donc justement, Charlène, tout à l'heure, en introduction, parlais de ton engagement au sein de la Fédération de l'entraide protestante. Tu as été donc en service civique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus concrètement ce que c'est qu'un service civique, en quoi ça consiste, ça dure combien de temps, etc.
D'accord. Donc en fait, le service civique, donc, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État et qui est donc d'intérêt, qui est au service de l'intérêt général. Donc c'est des jeunes, c'est proposé aux jeunes de 16 à 25 ans. Ensuite, il y a une, quand même une, c'est, faut le savoir, il y a une indemnité qui est proposée aussi à ces jeunes. Puisque c'est sur une durée de 6 à 12 mois. Donc il y a une indemnisation qui est faite par l'État, mais aussi par l'association de temps en temps qui participe aussi un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu les grandes idées du volontariat en service civique.
Et pourquoi alors dans ce cas-là choisir d'être en service civique plutôt que d'être bénévole, tout simplement ?
C'est un statut qui est peut-être différent parce que il y a l'indemnité qui est pas énorme mais quand même qui peut aider à la personne qui s'engage de quand même de vivre et je pense que c'est un engagement qui est différent puisque il y a la responsabilité citoyenne qui est mise en avant Ça permet aux jeunes de vraiment de se sentir responsable en tant que citoyen. Et donc, c'est peut-être différent du bénévolat. Ouais.
Et alors, justement, donc on a vu bénévole, service civique. Et alors, pourquoi être salarié ? Est-ce que tu vois une différence dans la façon dont tu abordes aujourd'hui ton engagement au sein des éclaireurs, du fait d'avoir été avant service civique, maintenant salarié ? Est-ce que ça a la même saveur, un engagement ? Selon les modalités, on va dire.
Non, c'est pas la même chose. C'est assez différent quand même le statut de service civique puisque déjà c'est entre 16 et 25 ans donc c'est un âge précis. Je pense que le statut est pas le même, mais après l'engagement qui vraiment motive la personne. Peut être le même pour un salarié, pour un bénévole, pour un service civique, pour un stagiaire, pour un volontaire, pour tout le monde.
Alors, je voudrais rebondir là-dessus, mais en posant une question à Mathieu sur le fait de questionner la relation entre bénévole et salarié. Tu es toi-même salarié d'une association, donc au quotidien confronté à une relation avec des bénévoles, et tu es toi-même bénévole dans une association dans laquelle il y a des salariés. Comment est-ce qu'on vit ça concrètement ? Sachant que ce qu'on peut comprendre, c'est que les salariés des associations sont aussi des militants, sont aussi des gens engagés, etc. Donc comment est-ce qu'on vit cette différence ? Je fais une tâche, l'autre l'a fait, un est payé, l'autre ne l'est pas. Comment est-ce qu'on vit ça concrètement ? Est-ce que ça peut poser problème ou pas ?
Alors, ça peut poser pas forcément des problèmes, mais des difficultés, surtout en termes de rythme. Et en fait, aussi en termes de découpage du travail. Et je pense que quelque chose de fondamental quand on appréhende cette relation salarié-bénévole, c'est aussi de fixer avec les autres personnes avec qui on travaille, que ce soit salarié ou bénévole, le cadre et aussi les priorités et les responsabilités de chacun. Et de ne pas se voiler la face sur ce qu'on peut amener en termes de temps et ce qu'on peut amener aussi en termes de compétences. Tout simplement, moi l'exemple que j'ai aujourd'hui côté bénévole, c'est que effectivement, j'ai pas la même force de frappe et pas la même vitesse de réaction que le salarié avec qui je vais travailler. Et du coup, dans le découpage qu'on va faire et dans du travail, je veux dire, on va pas se donner les mêmes missions, on va pas se donner les mêmes priorités. Et ça nécessite surtout, je pense, un constant regard sur ce qu'on fait, les rétro-planning et tout ça, pour se dire, ok, qui fait quoi, comment on le fait, qui peut agir à quel moment. Car effectivement, quand on a une réunion jusqu'à 22h, moi le lendemain, je me lève, je vais au travail. Lui, son travail justement, c'est de continuer à capitaliser sur la réunion qu'on a fait. Donc ça m'arrive régulièrement quand moi je suis à mon travail, de voir un mail du salarié avec qui j'ai bossé la veille au soir, tomber à 10h du matin. Et là, moi, tout mon rôle, c'est de me dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je court-circuite un peu mon travail pour répondre à ce mail ou voilà, ouais. Et là, c'est surtout dans la relation qu'on a avec ce salarié-là en particulier, de se dire, ok, est-ce que je vais plus vite que la musique que ce qu'on s'était fixé, ou est-ce que j'attends ce soir, ça dépend aussi du travail que va demander la réponse. Et c'est un peu la même chose, du coup, côté salarié. C'est que, du coup, effectivement, le travail ne va pas forcément être le même, on ne va pas demander la même réactivité, on ne va pas demander le même investissement, forcément. Parce que dans le contrat que moi j'ai passé en tant que salarié, j'ai un dû, j'ai des devoirs. Et, La difficulté qu'il y a vraiment quand on travaille en tant que salarié avec des bénévoles, c'est que c'est une question de rythme de travail et des fois de dépassement d'horaire. Et de se dire, voilà, que le bénévole qui débarque à 18h à l'association, parce qu'il vient de finir son travail, donc il arrive à 18h, et là, il a plein de sujets à discuter et tout ça, et toi, tu as déjà une journée de 8h dans les pattes, et tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui dis, bah, t'es gentil, mais là, j'en peux plus, faut que je rentre chez moi? Ou est-ce que tu prends ce temps avec lui? Et c'est pour ça que je dis qu'il faut coordonner son action, il faut être clair et sincère aussi dans le partage de ses tâches et ce genre de choses.
J'ai une dernière question là-dessus. Est-ce que tu arrives à cloisonner peut-être, à se dire, comment est-ce que tu gères justement ce temps pour ton association, ton temps en tant que salarié, et tu témoignais juste avant d'un mélange entre les deux, de qu'est-ce que je fais, est-ce que je réponds à ce mail, etc. Donc deux questions, est-ce que tu essayes de cloisonner, et si oui, concrètement est-ce qu'on fait pour cloisonner des techniques, des petites choses comme ça pour...
Alors, effectivement, je pense que j'espère cloisonner, que des fois je m'astreins pas très bien à le faire, au grand dam, soit de l'association où je suis bénévole ou au grand dam de l'association où je suis salarié. Mais effectivement, je pense qu'on, nécessairement, pour être efficace, il faut qu'on cloisonne d'une certaine manière. Après, malheureusement, c'est un tâtonnement presque de tous les jours, parfois, par rapport à tes motivations, par rapport à ton état de forme, ton état d'esprit, aux convictions qui te portent à tel moment, les expériences qui t'enrichissent. Donc malheureusement, j'ai pas de technique, c'est un peu un ressenti et une maturité qui arrive petit à petit et qui te permet de gérer ça.
Merci beaucoup Alexis et Mathieu. Avant de retrouver Paul pour notre interview des Cali, nous avons une petite pause musicale qui vous rappellera certainement une autre forme d'engagement.
Vous êtes de retour dans Ça se discute et c'est le moment de l'interview décalée. Alors pour continuer dans l'ambiance musicale, une question importante pour Mathieu. Pour marquer l'engagement, est-ce que tu es plutôt bague de foulard ou bague au doigt?
Alors je dirais que je vais pas répondre à ta question Paul, mais ce que je veux dire c'est que dans ma vie, j'ai 3-4 engagements prioritaires et si je m'ose à les classer par ordre de priorité, je dirais que c'est ma partenaire, ma famille, les éclairs unionistes et mon travail.
D'accord. Charlène, est-ce que toi, tu es plutôt salariée, plutôt militante ou plutôt salariée militante?
Salariée militante.
Agnès, engagez-vous qui disait? Oui, mais qui? C'est qui?
Mais qui? Ça peut être beaucoup de monde. Ça peut être à la fois les personnes qu'on va aider. Ça peut être des amis qui nous présentent l'association, comme ça a été mon cas pour la CIMAD d'Homme Asile, par exemple. Ça peut être beaucoup de monde.
Mathieu, quand on est engagé, est-ce qu'on n'est pas un peu enragé?
Un peu quand même, effectivement.
Charlène, quelques mois après ton arrivée dans le mouvement, Quand est-ce que tu fais ta promesse?
Qui sait, prochainement.
Agnès, l'engagement, c'est comme une drogue?
Tout à fait.
Mathieu, selon toi, est-ce que le scoutisme va changer le monde?
Ah bah, il y contribue déjà.
Charlène, même question. Est-ce que le scoutisme va changer le monde?
Oui.
Et Agnès, est-ce que le scoutisme va changer le monde?
Encore une fois, tout à fait.
Merci à tous les trois. Je te repasse la main, Céline.
Alors, on fait certaines activités quand on est enfant, sans forcément comprendre le fond de l'association. Voilà, on dit souvent que les louveteaux, ça court dans les bois. Donc, est-ce qu'ils ne connaissent pas forcément le fond du PE, de notre projet éducatif? Mais quand on est adolescent et aîné, hein, Mathieu, est-ce que ça change? Est-ce que tu pourrais nous parler du sens de l'engagement chez les jeunes?
Alors, le projet qu'on défend et le projet qu'on propose, justement, de vivre à nos aînés, je pense qu'on essaye, dans ce projet, de leur faire comprendre le pourquoi de leur présence, de leur faire mettre des mots dessus, et voilà, qu'ils comprennent pourquoi ils sont là, et de mettre des mots vraiment, de nous dire c'est quoi les projets qu'ils veulent construire, c'est quoi les projets qu'ils veulent défendre, c'est quoi les combats, voilà, de mettre des mots là-dessus et de s'engager justement à aller mettre des actions derrière ça, et d'aller les vivre, et d'aller en témoigner envers les autres, et comme ça ils pourront s'identifier, eux, pour eux-mêmes en tout cas, et pour les autres, sur un certain nombre de notions de valeur. Et donc que ce soit pour des projets en équipe, et donc de découvrir cette dimension qui est de partager des valeurs communes et d'aller les défendre. Et aussi, on propose avec le compagnonnage justement d'aller affronter ses propres combats ou d'aller défendre des valeurs et justement d'être nourri de ce projet d'équipe. On a la force d'aller derrière sur un combat plus personnel.
Donc du coup, l'engagement, il évolue, j'imagine. Pour ses aînés, ils questionnent et puis on a envie aussi qu'ils s'engagent vers la société et pourquoi pas dans notre association. Et du coup, j'ai envie de vous demander un peu si, pour vous, votre engagement salarial ou bénévole, est-ce qu'il a évolué ? Agnès ?
Oui, tout à fait. Ça a évolué d'abord quand on grandit. Comme tu le disais, les louveteaux ne comprennent pas forcément. Moi, quand j'étais Jeannette, je ne me posais pas forcément la question de l'engagement. Mais progressivement, avec la pédagogie, on prend conscience de beaucoup de choses. L'engagement prend une dimension très importante. Et ensuite, elle peut prendre des formes très différentes selon notre personnalité, les opportunités qu'on a. Et donc, moi, mon engagement, ça a un peu été d'aller là où je sentais qu'on pouvait m'utiliser quelque part et où je pouvais être utile.
D'accord. Ouais, parce que c'est un vrai engagement. Enfin, en tout cas, tu donnes de ton temps. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'organise, ton engagement, concrètement?
Très concrètement, alors la CIMAD de Mazy organise deux permanences par semaine, plus une séance de très joyeuse de tri du courrier, tout simplement. Et donc, on fait un planning tous les mois. Chaque bénévole s'inscrit selon ses disponibilités. Donc, ça reste assez flexible, ce qui est très confortable par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure de garder un petit peu de vie à côté pour soi quand même. Et voilà. Donc, selon les disponibilités, on s'inscrit 2, 3, 4 fois par mois, toutes les semaines, 2 fois par semaine pour les plus engagés. Donc, voilà.
D'accord, merci. Et Mathieu, est-ce que toi, ton engagement, il a évolué?
Alors, il a évolué aussi avec le goût des actions qu'on a envie de mener et le plaisir qu'on en retire et aussi le temps, les différentes priorités qui nous tombent dessus, on va dire, heureusement ou pas. Pour être plus concret, je dirais que voilà, effectivement, dans mon engagement aux éclairionnistes, j'ai eu un cursus plutôt classique et donc j'ai commencé par l'animation et d'être la personne directement en contact avec les jeunes. Et au fur et à mesure, j'ai découvert ce que c'est que d'être derrière ces animateurs et de les aider, d'être support pour eux et de leur proposer des actions et des projets d'envergure. Et j'ai pris plus de plaisir à ça qu'à être directement en contact avec les jeunes, même si je continue à le faire. Et donc voilà, mon engagement s'est transformé comme ça. Et après, l'engagement, il évolue en fonction du temps aussi qu'on peut y donner, qu'on peut y passer. Et ça, c'est, je vais revenir sur la réponse que j'ai fournie à la question des cahiers de Paul. C'est en fonction des priorités qu'on a. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas le même temps à s'engager quand on a une partenaire dans sa vie, par exemple, et qu'on s'engage pour elle, que quand on n'en a pas et qu'on s'engage sur autre chose. Ou en tout cas.
Paul, j'aimerais aussi toi que tu nous parles un peu de ton engagement.
Un peu pareil que tout le monde, en fait, ça change beaucoup. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'opportunisme ou de l'opportunité. Là-dedans, en fait, on découvre des trucs et puis on a envie de prendre le train, mais le train, il est déjà en marche. C'est rare qu'on se dise « je vais m'engager » et qu'on crée de toutes pièces notre engagement. Mm-hmm. On rejoint des initiatives, on rejoint des structures, on rejoint certains aspects de ce qu'on faisait déjà. Et en fait, continuellement, on prend des trains en marche, que ce soit... D'abord voir nos amis, puis après faire un projet aux aînés, puis après faire de l'animation, et puis faire de la formation, et gérer les animateurs, etc. etc. Et continuellement, le truc qui est quand même hyper chouette avec l'engagement, c'est quand on s'engage, on rencontre vraiment beaucoup de choses. Ce qui fait que le train dont je parlais, il arrive jamais vraiment au bout du quai, quoi. Et ça, c'est à la fois hyper bien et... un peu angoissant de se dire que plus on, enfin voilà, qui s'est engagé s'engagera, quoi. Parce que quand on a un engagement, bah on en croise d'autres qui nous donnent envie de nous engager, de varier notre engagement, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre niveau d'engagement actuel, en fait. C'est par la force de toutes ces intersections, de ces carrefours, etc.
Il faut dire que Paul est coordonnateur d'une région et qu'il est aussi au conseil d'administration de notre association. Alexis, tu voulais prendre la parole?
Oui, moi je voulais témoigner d'une évolution majeure qui a eu dans mon engagement. J'ai eu la chance d'être salarié de cette chouette association des éclaireurs et à un moment donné de devenir militant entre guillemets à temps plein, c'est-à-dire où mon quotidien était occupé par ça, où j'ai dû faire un certain nombre de choix, voire un certain nombre de sacrifices que je regrette absolument pas. Et le fait d'être à la fois salarié aux éclaireurs, j'étais aussi bénévole aux éclaireurs, puis engagé dans d'autres structures associatives et politiques, c'est un peu comme un virus. C'est quelque chose d'exponentiel, je pense. Et clairement, j'avais une certaine idée de ce que je voulais faire dans la vie avant. Et cette expérience de devenir salarié aux éclaireurs et de vraiment se consacrer pleinement pour cet engagement qui me tient tant à cœur a vraiment, je pense, changé ma vie et fait qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas imaginer ma vie sans être militant et que je me lève le matin avec une seule chose, c'est est-ce que je vais changer le monde, y contribuer, toute modestie, etc. Mais clairement, aujourd'hui, ma vie est centrée autour de ça. Et là, je vais sortir de ça, se discute, et je vais aller vivre un autre engagement juste après, et demain matin, je me lève à 6 heures pour aller vivre une autre forme d'engagement, etc. Voilà. Et ma vie, du fait des éclaireurs, en grande, grande partie, est basée sur cette forme d'engagement. Et pour la petite histoire aussi, j'ai eu le malheur d'avoir une branche aînée assez chaotique, puisqu'elle... Pour moi, elle s'arrêtait au bout de 3 mois. Et à ce moment-là, c'était pas réfléchi, mais je suis allé m'engager dans une autre structure, pour le coup dans un parti politique. Et depuis que j'ai 16 ans, en fait, je suis allé là-dedans. Et comme si la fin des éclaireurs, pour moi, faisait un manque, un vide. C'était pas conscient à l'époque, hein, c'était pas intellectualisé. Mais à ce moment-là, j'ai eu besoin d'aller vivre autre chose. Voilà. Et depuis que j'ai 16 ans, j'ai pas arrêté. Et c'est un peu compliqué ma vie, mon rythme de vie, etc. Parce que voilà, je me lève le matin pour changer le monde. Et ça, c'est grâce au scoutisme.
Tu es drogué.
C'est une forme de drogue. C'est une forme de drogue. Voilà. C'est une forme de dépendance, je pense, réellement. Je ne peux pas m'imaginer ne pas faire un peu de scoutisme dans la journée. Voilà.
Waouh. C'est beau à entendre. Et Charlène, je sais que tu es intervenue auprès de personnes défavorisées. Et j'imagine que c'est un contexte qui ne doit pas être facile. Un peu aussi, toi, Agnès, à la CIMAD, vous rencontrez des personnes en souffrance, des personnes en difficulté, qui peut-être ont du mal aussi à vous faire rejaillir du bonheur. Et je me demandais, est-ce qu'on n'est pas toujours... comment est-ce qu'on arrive à être motivé dans cet engagement-là?
Ouais, alors, c'est sûr qu'il y a des moments où on est découragé. Ça serait un mensonge de dire qu'on est toujours très motivé.
Oui, oui.
Parfois, on peut être découragé parce que, par exemple, le projet va pas assez rapidement, parce que il y a des personnes, par exemple, qui
prennent pas forcément les bonnes décisions. Donc on peut être frustré, on peut se sentir frustré. Mais après, je pense que la motivation première qu'on a et le militantisme qu'on a en nous passe au-dessus, en fait, de ces découragements qu'on peut avoir et qu'on peut rencontrer.
Mmh. Et toi, tu arrives, Agnès, à rester motivée, à te dire, bon, allez, ça a été dur la dernière fois, est-ce que j'y retourne ?
Alors oui, on y retourne parce qu'on est confronté à des personnes qui sont en énorme difficulté, en énorme souffrance. Les demandeurs d'asile, c'est pas des gens qui ont eu la vie toute rose chez eux. Et ils arrivent en France et c'est pas facile. Ils doivent travailler souvent au noir. Ils sont rejetés par toutes les institutions françaises. Et on y retourne parce qu'on a envie de les aider. Et on y retourne aussi grâce à la vie d'équipe de l'association. Mm-hmm. C'est important. Donc on essaye de se prendre aussi des soirées pour nous, pour se retrouver ensemble et arriver à garder un certain dynamisme quand même.
Ouais, j'avais envie aussi qu'on parle du coup de j'appelle ça un rebooster d'engagement. Donc là, tu parles de la vie d'équipe. Nous, dans l'association, bientôt, on va avoir un gros rebooster d'engagement. C'est le congrès. Est-ce que, Paul, tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui. Alors, le congrès, c'est... Alors, avant d'être un rebooster d'engagement, c'est un événement qui rassemble tous les adultes du mouvement qui sont soit responsables, cadres, formateurs... vraiment tous les adultes. Et ça n'arrive qu'en moyenne, on va dire, tous les 7-8 ans. Donc c'est assez rare. Et en fait, cet effet de rareté, c'est vrai que on s'attend à ce que ça nous rebooste dans notre engagement, parce que ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que ça se vit généralement une seule fois ou deux max dans une vie de scout. Et c'est un moment qu'on attend, c'est un moment... Et c'est un moment qui est consacré aussi, qui nous est consacré. C'est-à-dire que notre engagement est souvent marqué par la dédication à une tâche, à faire des trucs, à donner de son temps, etc. Et puis là, on va se retrouver 4 jours entre nous, et puis c'est de nous qu'on va prendre soin. C'est pas nous qui allons prendre soin d'enfants ou d'autres adultes. Et ça, ça va être génial à mon avis, parce que on va, ça va amener de la variété, de la nouveauté, de la surprise aussi, et ça va amener de la valorisation probablement, parce que avoir l'opportunité de participer à ce genre d'événement, c'est aussi la récompense de semaines, de mois, d'années d'un autre engagement. Et puis là, voilà, on va vivre notre engagement un peu différemment, et je pense que on va être reboosté. Enfin, il y a d'autres choses qui reboostent, hein, mais ça va y contribuer.
Ouais, heureusement qu'il y a aussi d'autres choses qui arrivent avant d'attendre 7 ans pour être reboosté et faire de la radio pour ça. Écoute, moi en tout cas, c'est un rebooster d'engagement aux unionistes. J'avais aussi envie, en préparant cette émission, de parler d'un passage important dans notre vie de scout qui est aussi expliqué dans le dictionnaire, comme je vous disais en introduction, que engager, c'est attacher quelqu'un par une promesse. Alors voilà, on a aux unionistes, dans le scoutisme, il y a la promesse qu'on voit dans toutes les branches, et j'avais un peu envie qu'on en parle autour de cette table. C'est quand même quelque chose d'important. Et Paul, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces textes de la promesse?
Ouais. Alors la promesse, qu'il faut savoir, c'est que ça existe partout. Dès qu'on porte un foulard ou une chemise d'uniforme, de près ou de loin, on rencontre la promesse qui arrive, parce que c'est vraiment quelque chose qui se vit à l'échelon mondial. Et du coup, c'est aussi ce qui nous rassemble, tous autant qu'on est scout. Et il me semble avoir lu... sur le petit écusson que je porte sur ma chemise, au moment du centenaire du scoutisme en 2007, il y avait marqué un monde, une promesse, ou une phrase qui ressemblait un petit peu à ça. Et c'est vraiment ça. On est accroché par notre promesse. C'est pour ça qu'on la fait vivre aux enfants et qu'on la vit en tant qu'enfant. C'est ce premier moment de notre engagement où on va arriver devant un groupe, et ce qui est vraiment hyper chouette à se dire, c'est que aux quatre coins du monde, tout le monde fait ça, quoi. Tout le monde à 8 ans va se pointer devant un groupe et va dire les copains, je veux rester avec vous encore pendant quelques années. Et pour moi, rester avec vous, ça veut dire que je vais faire de mon mieux, tout mon possible, etc., etc., pour vivre des valeurs, pour vivre des choses en groupe, mener des actions avec vous. Et voilà. Mmh. C'est ce qui résumerait la promesse pour moi, c'est ça.
Ce que j'aime aussi dans la promesse, c'est qu'on est entouré de parrains et de marraines. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul face à son engagement et qu'on a des copains à qui on demande de nous accompagner, de nous guider. Et ça, je trouve ça aussi fort. Et je crois aussi qu'Alexis, on a des parrains en la parole d'engagement. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est la parole d'engagement ?
Alors, comme le disait Paul, la promesse, c'est un outil éducatif. Si on devait la résumer, ce serait donner la chance à un jeune de prendre une décision et de dire « je veux être dans ce groupe-là ». Donc, il y a toute cette volonté pour nous, en tant qu'éducateurs, d'aider le jeune dans son positionnement, témoigner, dans notre jargon, ce qu'on appelle de ses doutes, de ses convictions. Former des citoyens, c'est former des gens qui sont en mesure de prendre des décisions. Le responsable, lui, a déjà pris la décision d'être scout dès lors qu'il est bénévole aux éclaireurs. Souvent, c'est que c'est son choix. Ce n'est pas les parents qui ont dit « tu vas être responsable », contrairement au louveteau qui a 8 ans, où effectivement, c'est le parent. Et on s'est posé la question à un moment donné de « mais comment est-ce que ce responsable peut témoigner devant le groupe de son engagement, de sa volonté de construire quelque chose collectivement, individuellement et collectivement, au sein de cette association. Et donc, sauf erreur de ma part, en 2008 ou 2009, il y a une nouvelle proposition qui est arrivée dans cette association, qui est la parole d'engagement. La parole d'engagement est plus libre que la promesse, qui est une parole unique. L'ensemble des louveteaux récite la même promesse, avec l'aide de toute la meute, je promets de faire de mon mieux, etc. J'ai récité cette promesse-là il y a 17 ans, et les louveteaux aujourd'hui récitent exactement le même texte. La parole d'engagement, elle est un petit peu différente. C'est plus donc une affirmation d'un individu adulte vis-à-vis du groupe en disant « je suis dans cette association, je suis militant de cette association et je m'engage à faire vivre ce projet ». Avec un cadre symbolique qui est décidé par le responsable, et ce qu'on voit clairement, c'est que c'est un besoin à un moment donné aussi pour le responsable qui souvent est dans son train-train de responsable et qui s'occupe au quotidien des enfants et qui n'a pas le temps de sortir la tête, bah justement de se poser et de dire voilà, je suis bien ici et je crois dans ce mouvement, je crois en ces valeurs et je souhaite continuer à les faire vivre.
Mmh. Est-ce que, très rapidement, est-ce qu'à la CIMAD, il y a quelque chose de commun comme ça ? Est-ce que vous n'avez pas de promesses, mais est-ce qu'il y a, sur quoi vous vous engagez et comment ça se passe l'engagement concrètement ? Vous ne signez pas de contrat, j'imagine ?
Non, pas du tout. Il y a une adhésion bénévole qui est symbolique, mais sinon l'engagement se fait vraiment au quotidien, au mois le mois, à chaque réunion, à chaque permanence.
D'accord. Ok, très bien, merci. Écoutez, on a parlé longuement tous ensemble de l'engagement. Je vous remercie de vous être engagés à venir avec nous ce soir. Merci à Alexis et à Paul d'avoir été avec moi autour de cette table. Et merci à vous d'avoir écouté Ça se discute, l'émission mensuelle des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Merci à Céline aussi d'avoir été avec nous. Rendez-vous le lundi 27 février pour une continuité, pour parler de notre rebooster bientôt, pour parler du congrès. On accueillera l'équipe congrès avec nous. Merci et très bonne soirée. Bye.
heart, through the jungle, through the dark.